Chapitre 5 L'aube de l'amour. L'assaut des sensations nouvelles avait été si violent et si multiple pour René Vinci durant toute cette soirée qu'il lui fut impossible de discerner exactement leurs détails dans le temps qu'il mit à franchir de pied la distance entre la rue du Bel Respiro et la rue Goët-Logon. Si Claude n'avait pas brusquement quitté l'hôtel Komhoff en proie aux affres de l'amour trompé, les deux amis seraient revenus ensemble. Ils auraient eu, le long des avenues désertes et sous les froides étoiles, une de ces conversations de 3 heures du matin, où les jeunes gens qui sortent d'une fête se disent tout ce qu'ils en emportent dans le cœur. Peut-être alors, et rien qu'à prononcer le nom de Madame Morène, René aurait compris quelle place avait prise subitement dans sa pensée cette beauté fine et rare, en qui s'était comme incarnée et rendue palpable toutes ces chimères d'aristocratie. Peut-être aurait-il acquis par Claude quelques notions justes sur ce caractère et sur la différence qu'il y a entre une femme à la mode, comme l'était Madame Morène, et une vraie grande dame. Et il se serait épargné la dangereuse fièvre d'imagination qui le fit se complaire tout le long de sa route dans le souvenir du visage et des moindres gestes de Suzanne. Il avait entendu la comtesse l'appeler de ce joli prénom en l'embrassant à la minute de l'adieu, et il la revoyait dans son manteau doublé de fourrure blanche, si épais qu'il faisait paraître la gracieuse tête blonde presque trop petite. Il revoyait le mouvement que cette tête avait eu, la légère inclinaison de son côté avant de monter en voiture. Il la revoyait aussi à la table du souper, et le regard de ses beaux yeux attentifs, et la façon dont elle remuait ses lèvres pour lui dire de ces mots bien simples, mais dont chacun lui avait prouvé que celle-là, du moins, avait l'âme de sa beauté, de même qu'elle avait une beauté digne du cadre où elle lui était apparue. À peine s'il s'aperçut du long chemin qu'il avait à parcourir, le tiers de Paris. Il contemplait le ciel sur sa tête, l'eau de la Seine qui coulait, mouvante et sombre, les longues files des becs de gaz qui semblaient approfondir encore la profondeur indéterminée des rues. Cette nuit lui apparaissait si vaste, vaste comme son impression présente de sa propre vie. La forme d'esprit, particulière aux poètes qui ne sont que poètes, fait d'eux les victimes d'une sorte d'état mal défini que l'on pourrait nommer l'état lyrique. C'est comme l'enivrement anticipé de l'espérance ou du désespoir, suivant que cette qualité d'amplifier prodigieusement la sensation présente s'applique à la joie ou à la tristesse. Cette entrée dans le monde, qui à cette minute revêtait pour cette tête d'enfant un aspect de renouvellement de sa destinée, qu'était-ce, en somme? À peine un coup d'œil jeté par l'entrebâillement d'une porte, et qui supposait, pour devenir profitable, une série de menues actions auxquelles eût pensé un ambitieux. L'ambitieux se fut demandé quelle impression il avait produite, quel caractère il avait rencontré, quel, parmi les salons où on l'avait prié, valait une seule visite, et quel, une fréquentation assidue. Au lieu de cela, le poète se sentait marcher dans une atmosphère de félicité. La douceur de la dernière portion de la soirée se reflétait pour lui sur tout le reste. Il oubliait même les quarts d'heure de détresse qu'il avait dû traverser. Ce fut dans ce sentiment qu'il se retrouva devant la grille de sa maison. L'antithèse entre le monde d'où il venait et le monde où il rentrait lui fut douce à constater, tandis qu'il poussait le lourd battant, puis qu'il se glissait à petits pas jusqu'à sa chambre. Cette antithèse ne donnait-elle pas à sa joie actuelle tout le piquant de la fantaisie? Puis, comme il était à cet âge où la réparation des fatigues nerveuses s'accomplit avec une régularité parfaite à travers les mouvements les plus désordonnés de la pensée et des sensations, il ne fut pas plutôt couché dans son lit qu'il dormait déjà d'un sommeil profond. S'il rêva des magnificences entrevues, des applaudissements dans le vaste salon, Du profil un peu mignard de Madame Morène, si délicat sous ses cheveux blonds, il n'aurait pu le dire quand il se réveilla au lendemain matin vers les 10 heures. Un ray de lumière entrait par la fente des volets clos et des rideaux baissés. Aucun bruit n'arrivait de la petite rue et aucun bruit de l'intérieur de l'appartement, qui trahit le branle-bas d'un petit ménage le matin, les allées et venues de la servante, le rangement hâtif des meubles, la préparation du déjeuner. Le jeune homme fut surpris de ce silence. Il consulta sa montre pour savoir combien de temps il avait dormi, et il éprouva de nouveau cette sensation sur laquelle il ne s'était jamais blasé, celle d'être aimé par sa sœur, avec cette espèce d'idolâtrie minutieuse qui va des grands événements de l'existence aux plus petits. En même temps, le souvenir le ressaisit de sa soirée de la veille. 20 images affluèrent dans son cerveau, qui se confondirent toutes dans les traits fins, la bouche spirituelle et les yeux bleus de Madame Morène. Il la revit, d'une manière plus distincte que la veille, à l'instant même où il venait de la quitter. Mais la netteté de cette vision et l'infinie complaisance avec laquelle il s'y attarda ne l'éclairèrent pas encore sur le sentiment qui naissait en lui. C'était une impression d'artiste, et rien de plus, comme si les plus gracieux des fantômes de femmes adorées durant sa jeunesse, à travers les phrases des romanciers et des poètes, avaient pris corps sous ses yeux. Couché dans la tiède paresse de son lit, il jouissait du charme de ce souvenir, comme il jouissait de l'intime aspect de sa chambre, de son familier, de son calme asile. Ses regards erraient voluptueusement sur tous les objets visibles dans le demi-jour, sur sa table dont les mains d'Émilie avaient réparé le désordre, sur ses gravures que faisait mieux ressortir la sombre tonalité du papier rouge, sur les reliures de ses chers livres, sur la cheminée dont le marbre supportait quelques photographies dans des cadres de cuir. Le portrait de sa mère était là. Pauvre mère, morte avant d'avoir assisté à la réalisation de sa plus ardente espérance. Elle, autrefois si orgueilleuse des morceaux, plus ou moins bienvenus, qu'elle rencontrait parmi les papiers de son fils en rangeant la chambre. La photographie du père était là aussi, mélancolique visage rongé par l'alcool. Bien souvent, René avait songé qu'une espèce d'impuissance secrète de sa propre volonté lui avait été transmise par cet homme malheureux. Mais par ce lendemain de fête, il n'était pas d'humeur à réfléchir sur les coins tristes de sa vie. Et ce fut avec une joie d'enfant qu'il frappa 2 ou 3 coups dans la ruelle de son lit. Il appelait ainsi Françoise le matin, pour que la brave fille vînt ouvrir les rideaux et les volets. À la place de la bonne, Émilie entra, et les persiennes, une fois rabattues, ce fut le visage aimant et le sourire de sa sœur que le jeune homme aperçut, un sourire tout empreint de la plus confiante curiosité. « Un triomphe !» répondit-il joyeusement à la muette interrogation d'Émilie. La jeune femme battit des mains comme une petite fille. Elle vint s'asseoir au pied du lit de son frère sur une chaise basse et, câlinement, « Tu te lèveras plus tard. Françoise va t'apporter ton café. J'avais bien calculé que tu te réveillerais vers les 10 heures. J'achevais de le moudre juste quand tu as cogné. Tu l'auras tout frais. » Comme l'Auvergnat entrait, tenant entre ses grosses mains rougeaudes le petit plateau de porcelaine, « Je vais te servir, » continua Émilie. « Fréneau s'est chargé de prendre Constant à la pension. Nous avons tout le temps. Dis-moi tout. » Et René dut reprendre le récit de ses sensations de la veille sans en rien omettre. « Que disait Claude Larcher ?» demandait sa sœur. « Comment était la cour de l'hôtel ? Comment l'antichambre ? Comment la robe de la comtesse ?» Et elle riait des métaphores fantastiques de Madame de Sermoise. Elle s'écriait « Quelle chipie !» en écoutant l'épigramme de la femme du confrère. Elle se moquait de l'ignorance de la jolie Madame Étorel. Elle s'indignait contre la cruauté de Colette. Et quand le poète se mit à lui décrire le gracieux profil de Madame Morène et à lui rapporter leur causerie à la table du souper, elle aurait voulu pouvoir dire merci à la femme exquise qui, du premier coup d'œil, avait su distinguer ainsi son René. L'habitude qu'elle avait prise, depuis des années, de vivre uniquement par la sensibilité de son frère, la rendait pour le poète la plus dangereuse des confidentes. Elle possédait la même nature d'imagination que lui, cette imagination de l'artiste amoureux de ce qui brille, et elle s'y livrait sans le moindre scrupule, puisque c'était pour le compte d'un autre. Il y a une espèce d'immoralité impersonnelle, particulière aux femmes, et qui est celle des mères, des sœurs et des amantes. Elle consiste à ne plus percevoir les lois de la conscience aussitôt qu'il s'agit du bonheur de l'homme aimé. Émilie, qui n'était, quand elle pensait à elle-même, qu'abnégation et que simplicité, ne caressait pour son frère que désir de luxe, qu'ambition de vanité. Et naïvement, elle s'écria, donnant une forme à des pensées que René osait à peine admettre en lui, « Ah, je le savais bien que tu réussirais. Ces dames aux farelles ont beau dire, ta place n'est pas dans notre pauvre monde. Ce qu'il vous faut, à vous autres écrivains, c'est tout ce décor, cette vie magnifique. Mon Dieu, que je te voudrais riche, mais tu le seras. Une de ces grandes dames s'intéressera à toi et te mariera. Et même dans un palais, tu ne cesseras pas d'être mon frère qui m'aime. Voyons, est-ce possible que tu vécusses ainsi toujours? Te vois-tu dans un petit appartement au quatrième, avec des enfants qui piaillent, une femme qui ait des mains de servante comme les miennes ?» Et elle montrait ses doigts, où se voyaient les traces des piqûres de l'aiguille. « Et la nécessité de travailler à l'heure comme les cochers de fiacre pour gagner de l'argent ? Ici, tu n'as pas eu le luxe, c'est vrai, mais je t'ai donné le loisir. » « Bonne et chère sœur !» dit René, touché aux larmes par la profondeur d'affection que révélait cette sortie, et davantage encore par la complicité que ses secrètes convoitises rencontraient dans cette affection. Quoique le nom de Rosalie n'eût jamais été prononcé entre eux d'une certaine manière, et qu'Émilie n'eût jamais reçu les confidences de son frère, ce dernier se rendait bien compte que sa sœur avait deviné longtemps son innocent secret. Il savait qu'avec ses visées ambitieuses, elle n'aurait jamais approuvé ce mariage. Mais eût-elle parlé comme elle venait de faire, si elle avait connu les détails complets de son roman? Lui aurait-elle conseillé une trahison? Car c'en était une, et de celle qui pèse le plus au cœur né pour la noblesse. La trahison sentimentale d'un homme qui change d'amour et qui prévoit, qui éprouve déjà le contre-coup des douleurs que sa perfidie irrésistible infligera. Aussitôt Émilie partit, et tout en s'habillant, René se laissa entraîner par les idées que la dernière phrase de sa sœur lui avait suggérées. Et pour la première fois, il eut le courage d'envisager bien en face la situation. Il se souvint du petit jardin de la rue de Bagneux et du soir où il avait mis un premier baiser sur la joue rougissante de la jeune fille. Certes, il n'avait jamais été son amant, mais ses baisers, mais ses fiançailles clandestines. Une vérité lui apparut indiscutable, que l'on n'a pas le droit de prendre le cœur d'une vierge si l'on n'a pas en soi la force de l'aimer pour toujours. Mais il sentit du même coup que sa sœur avait prononcé tout haut la parole qu'il se disait tout bas depuis que le succès de sa pièce lui avait ouvert des horizons d'espérance. « Cette vie magnifique !» avait murmuré Émilie. Et de nouveau les images du décor traversées la veille se déployèrent, et de nouveau, sur ce fond d'opulence, le visage de Madame Morène se détacha et son sourire. La loyauté du jeune homme essaya pourtant de chasser cette apparition séductrice. Il dit tout haut « Pauvre Rosalie, qu'elle est douce et qu'elle m'aime !» Et il trouva une sorte d'égoïste attendrissement à se ressouvenir de la profondeur de cet amour inspiré par lui, attendrissement qui le poursuivit jusqu'à la table du déjeuner. Quelle était simple cette table, et comme elle ressemblait peu à l'étincelant souper de cette nuit. C'était, sur la toile cirée à fleurs coloriées, un tout modeste service en porcelaine blanche, avec des verres un peu gros, parce que les maladresses combinées de Frénaud, de Constant et de Françoise auraient rendu l'usage du cristal trop coûteux pour le budget de la famille. Le bon Frénaud, avec sa longue barbe, son regard distrait, mangeait vite, s'accoudant sur la table, portant son couteau à sa bouche, aussi commun de manière qu'il était distingué de cœur. Et comme pour faire mieux ressortir par le contraste l'impression de cosmopolitisme oisif éprouvée par René, il racontait en riant sa demi-journée. À 7 heures du matin, il avait donné une répétition à l'école Saint-André. De 8 à 10 heures, il avait fait une classe dans cette même école aux petits garçons encore trop faibles pour suivre le lycée. Il n'avait eu que le temps ensuite de grimper sur l'impériale de l'omnibus du Panthéon, qu'il avait conduit à une 3e leçon, rue d'Astorg, tout près de Saint-Augustin. « J'ai acheté un journal en route, » ajoutait le brave homme, « pour y voir le récit de la soirée d'hier. Tiens, » ajouta-t-il en fouillant dans les poches d'une serviette de cuir blanchie par l'usage, bourrée de livres et ficelée par une courroie. « Je l'aurais égaré. Tu es si distrait, » fit Émilie presque avec aigreur. « Bah, le père O'Farrell nous renseignera !» dit gaiement René. « Tu sais bien qu'il est mon indicateur vivant. Il aura lu ce soir toutes les feuilles de Paris et de la province. » Précisément parce qu'il était trop certain que les moindres comptes rendus de la représentation à l'hôtel Komoff seraient collectionnés par le sous-chef de bureau et commentés par la mère, René crut devoir à Rosalie de lui donner lui-même tous les détails. Il y a ainsi un instinct qui pousse l'homme, est-ce hypocrisie, est-ce pitié, à ses délicatesses de procéder à l'égard d'une femme qu'il va cesser d'aimer. Aussitôt après le déjeuner, il se dirigea donc du côté de la rue de Bagneux en prenant la rue de Vaugirard. C'était son habitude autrefois d'aller chez son amie à cette heure-là. Il lui arrivait de composer pour elle, et de tête, durant cette courte promenade, une ou deux strophes, dans la manière de Heine, qu'il lui disait quand ils étaient seuls. Il y avait longtemps que ce pouvoir de marcher ainsi en plein rêve lui était refusé. Mais rarement la vulgarité de ce coin de Paris l'avait frappé à ce degré. Tout y révélait la médiocre existence des petits bourgeois, depuis la multiplicité des humbles boutiques jusqu'à l'étalage, poussé presque au milieu du trottoir, de toutes sortes d'objets à bon marché. Derrière les devantures des restaurants étaient collées de petites affiches à la main qui mentionnaient des menus à prix fixe d'une extraordinaire simplicité. Les ustensiles en vente dans les bazars prenaient comme une physionomie pauvre. Ces signes et 20 autres rappelaient au jeune homme la dépense calculée des petites bourses, une existence réduite à cette décente économie qui n'a pas l'horrible et attirant pittoresque de la vraie misère. Quand on commence d'aimer, on trouve à toutes les choses qui environnent la personne aimée des raisons de s'attendrir. Et quand on cesse d'aimer, ces mêmes choses fournissent au cœur des raisons de se refermer davantage. Pourquoi René se prit-il à en vouloir à Rosalie de l'impression de mesquinerie dont le pénétrait ce tableau de son quartier ? Pourquoi l'aspect de la rue de Bagneux l'indisposa-t-il contre la jeune fille, comme eût pu le faire un grief personnel? Elle avait, cette rue, une physionomie si pauvre, si abandonnée, avec le mur du jardin de couvent qui la termine et la file de ses vieilles maisons. Une charrette surchargée de paille la barrait à moitié, avec 3 chevaux attelés de cordes, qui mangeaient, le mufle engagé dans la musette, tandis que le conducteur achevait de déjeuner dans un petit restaurant à la devanture lit de vin. Une sœur marchait sur le trottoir de gauche, un gros parapluie bombait sous son bras. Le vent agitait les ailes de sa coiffe blanche, et la croix de son chapelet battait sa robe de bure bleue. Pourquoi René, après avoir reporté sur Rosalie toute la déplaisance de ses sensations bourgeoises, reporta-t-il involontairement sur l'image de Madame Morène, le mouvement de rêverie religieuse que ce costume de la sœur de charité produisit en lui. Les phrases que la belle mondaine lui avait débitées à table, la veille, sur les œuvres pieuses auxquelles prennent part tant de grandes dames jugées frivoles, lui revint à la mémoire. C'était la troisième fois depuis le matin que le visage de cette femme lui apparaissait, et chaque fois plus précis. Mon Dieu ! Si son bon génie voulait qu'il la rencontrât ainsi, dans une rue écartée de Paris, en train de rendre visite à ses pauvres. Et au lieu de cela, il s'engageait dans un couloir, au bout duquel était une cour, et au fond de cette cour se trouvait la porte du rez-de-chaussée, occupée par les O'Farrell. Poussés par l'exemple des Fresnaud, ils avaient, eux aussi, réalisé le rêve secret de toute famille de la petite bourgeoisie parisienne, et déniché dans ce quartier isolé un appartement avec un jardinet grand comme un mouchoir de poche. « Ah, monsieur René !» fit Rosalie, qui vint, au coup de sonnette du jeune homme, ouvrir elle-même. Les O'Farrell n'avaient à leur service qu'une femme de ménage, la mère Foreau, sur le compte de laquelle la vieille dame ne tarissait pas en anecdotes, et qui partait à midi. À la vue de celui qu'elle aimait, le visage de la pauvre enfant, pâlot d'habitude, s'était rosé de plaisir, et elle n'avait pu retenir un petit cri. « Que c'est gentil à vous d'être venu nous raconter tout de suite comment cette comédie a réussi !» Elle introduisit le jeune homme dans la salle à manger, pièce mal éclairée par une fenêtre au nord et qui n'était même pas chauffée. La scrupuleuse avarice de Madame O'Farrell lui faisait, quand les journées d'hiver n'étaient pas trop froides, remplacer la dépense du feu, pour elle et ses filles, par des espèces de pèlerines ouatées et des mitaines. « Vous voyez ? » dit-elle à René en lui faisant signe de s'asseoir. « Nous comptons le linge. » Sur la table, en effet, tout le blanchissage de la quinzaine était étalé, depuis les chemises du père jusqu'à celles des filles. L'éclat bleuâtre des calicots et des cotonnades était rendu plus clair par le fond obscur de toute la pièce. C'était le pauvre linge du ménage gêné. Il y avait des bas dont le talon se hérissait de reprises, des serviettes effilochées, des manchettes élimées et qui montraient le grain de la trame. Enfin, tout un appareil intime dont la jeune fille sentit aussitôt qu'il n'était guère fait pour plaire au poète, car elle empêcha qu'il ne prît le siège que lui indiquait Madame O'Farrell en disant « Monsieur René sera mieux au salon, il fait trop sombre ici ». Avant que sa mère n'eût pu lui répondre, elle avait déjà poussé le visiteur dans la pièce décorée de ce nom pompeux de salon, et qui, en réalité, servait surtout de cabinet de travail à Angélique. Celle-ci augmentait un peu les ressources de la famille par le produit de quelques traductions de romans anglais. Elle était en ce moment assise auprès de la fenêtre en train d'écrire sur un guéridon. Un dictionnaire traînait à ses pieds, chaussée de pantoufles dont elle avait, pour plus de commodité, écrasé les quartiers. Elle n'eut pas plutôt vu René qu'elle ramassa ses papiers et ses livres. Elle s'échappa en laissant voir ses cheveux mal peignés, sa robe de chambre au corsage de laquelle manquaient des boutons. « Excusez-moi, monsieur René, » disait-elle en riant, « je suis faite comme une horreur et je ne peux pas me montrer. » Le jeune homme s'était assis et il regardait la pièce, de lui bien connu, dont la grande élégance consistait dans une série d'aquarelles lavées par l'employé durant les loisirs de son bureau. Il y en avait une douzaine, et qui représentaient les unes des paysages étudiés dans les promenades du dimanche, les autres des copies de quelques toiles chères à la rêverie du père O'Farrell. Et c'était précisément, comme les illusions perdues de Glaire, les tableaux que le goût moderne de René détestait le plus. Un tapis de feutre aux couleurs fanées, six chaises et un canapé revêtu de housse achevaient le mobilier de cette chambre, autrefois aimée par le poète, comme un symbole de simplicité presque idyllique, mais qui devait lui paraître deux fois odieuse à cause des dispositions d'esprit où il arrivait, et de l'aigreur avec laquelle Madame O'Farrell lui dit, se croyant très fine, « Eh bien, C'était-il gai, hier soir, dans votre beau monde ? Elle prononçait « ti » et « vote ». Et sans attendre la réponse, « Votre monsieur Larcher ne fréquente donc plus que des gens qui ont hôtel, équipage et tout ? On ne l'entend plus parler que de comtesse, de baronne, de princesse. Hé, il n'est pas déjà si relevé, lui qui courait le cachet il y a 10 ans. »« Maman !» interrompit Rosalie d'une voix suppliante. « Mais pourquoi a-t-il toujours ses yeux insolents ?» continua la vieille dame. « Oui, il vous regarde en ayant l'air de nous dire « Pauvre diable !»« Comme vous vous trompez sur son caractère, » répliqua René. « Il a un peu la manie de la société élégante, c'est vrai, mais c'est si naturel à un artiste. « Tenez, moi-même » continua-t-il en souriant. « Mais j'ai été ravie d'aller dans cette soirée hier, de voir cette espèce de palais, ces fleurs, ces toilettes, cette magnificence. Est-ce que vous croyez que cela m'empêcherait d'aimer mon modeste chez moi et mes vieux amis ? Nous autres, gens de lettres, voyez-vous, nous avons tous cette rage du décor brillant. Mais Balzac l'a eu, Musset l'a eu, c'est un enfantillage qui n'a pas d'importance. » Tandis que le jeune homme parlait, Rosalie lança du côté de sa mère un regard où se lisait plus de bonheur que ses pauvres yeux n'en avaient exprimé depuis des mois. En avouant ainsi et raillant lui-même ses plus intimes sensations, René obéissait à un mouvement du cœur trop compliqué pour que la simple enfant en comprît le rouage. Il avait vu, à l'angoisse des prunelles de la jeune fille, quand Madame O'Farrell avait prononcé cette phrase « Votre beau monde », que le secret de l'attraction exercée sur lui par le mirage de l'élégance n'avait pas échappé à la double vue de celle qu'il aimait. Il avait un peu honte, d'autre part, d'être si plébéien dans cette griserie de luxe. Il avait donc parlé de ses impressions comme s'il n'en eût pas été dupe, en partie afin de rassurer Rosalie et de lui épargner une peine inutile, en partie afin de se permettre cette petitesse sans trop se la reprocher. Pour certaines natures, et l'habitude du dédoublement moral les rend fréquentes parmi les écrivains, raconter ses fautes, c'est se les pardonner. Celui-là se complut, tout en défendant Claude Larcher, à reprendre le détail de ses propres enivrements, avec une nuance d'ironie qui aurait trompé des observateurs plus fins qu'une enfant amoureuse. Tout en se moquant à demi de ce qu'il appela lui-même son snobisme, et il expliqua ce mot d'origine anglaise aux deux femmes, il continuait de se livrer à la misère des petites remarques qui se multipliaient en lui depuis la veille. Il ne pouvait se retenir de mesurer en pensée l'abîme qui séparait les créatures entrevues chez Madame Komoff. Rose vivante poussée dans la serre chaude de l'aristocratie européenne. Et la petite provinciale de Paris, au teint plombé, aux doigts fatigués par le travail, aux cheveux simplement noués, à la tournure si modeste qu'elle en était gauche. Petit à petit, cette comparaison devint presque douloureuse, et le jeune homme subit un de ces accès de sécheresse intérieure qui déconcertaient son amie. Elle les apercevait toujours, sans jamais en comprendre la cause. Elle connaissait si bien René. Elle savait d'instinct que deux êtres existaient en lui, côte à côte. L'un doux, bon et tendre, facile à l'émotion, incapable de supporter sa peine, enfin le René qu'elle aimait, et un autre, atone, étranger à elle, irrité contre elle. Mais le lien qui unissait ces deux êtres, elle ne le saisissait pas. Ce qu'elle comprenait, c'est qu'avant le succès triomphal du CJB, elle ne voyait presque jamais que le premier de ces deux René, et depuis, que le second. Elle n'osait pas dire « le malheureux succès ». Elle en avait été si fière. Pourtant, elle aurait tant souhaité en revenir à l'époque où son ami était inconnu, et pauvre, et si à elle. Que sa voix pouvait se faire aisément dure, si dure que même les phrases adressées à une autre lui semblait par leur seule intonation dirigée contre son cœur. En ce moment, c'était avec sa mère qu'il causait. Et rien que l'accent avec lequel il prononçait des paroles bien innocentes faisait mal à Rosalie. Cependant, Madame O'Farrell, qui paraissait depuis quelques secondes toute préoccupée, se leva brusquement. « J'entends Sandrette qui gratte, » dit-elle. « La mignonne veut sortir. » Elle passa de nouveau dans la salle à manger pour ouvrir la porte de la cour à sa chatte préférée, et ravie sans doute de laisser les deux jeunes gens ensemble. Car Sandrette, une fois partie, elle s'attarda longuement à flatter Raton, un de ses autres pensionnaires, en lui disant à très haute voix « Que tu as d'esprit, mon raton ! Que je t'aime, démonée !» C'était un des innombrables termes d'amitié qu'elle avait imaginé pour ses chats. Et tandis qu'elle discutait ainsi, elle se disait à elle-même « S'il est venu tout de suite, c'est qu'il lui reste fidèle. Mais quand se déclarera-t-il, pauvre fillette ? Ce n'est pas dans ses salons dorés qu'il trouvera une perle comme celle-là. C'est doux, c'est honnête, et joli, et vrai. » Puis tout haut, « N'est-ce pas, mon raton ? Tu me comprends, mon fils ?» Le matou faisait le gros dos. Il frottait sa tête contre la jupe de sa maîtresse. Il ronronnait voluptueusement, et le monologue intérieur de la mère continuait. « Avec cela, qu'il est devenu un beau parti ? On peut bien y penser, puisqu'on voulait bien de lui avant. Elle n'aura pas à trimer comme moi avec O'Farrell. Si ça ne fait pas pitié qu'elle eût ses gentilles mirettes à ravauder ce linge. » Et elle empilait, par une vieille habitude de ménagère active, les mouchoirs déjà passés en revue. Et elle songeait encore. Sa petite dot, quelle surprise ! À force d'âpre économie, elle avait gratté, sur le traitement modeste de son mari, une quinzaine de mille francs qu'elle plaçait à l'insu du sous-chef de bureau. Elle se souriait à elle-même et tendait l'oreille avec une certaine inquiétude. Que se disent-ils ? Elle savait que sa fille aimait René, mais elle ignorait les secrets accordailles qui unissaient les deux jeunes gens. De quel étonnement n'eût-elle pas été remplie si elle s'était doutée que Rosalie avait échangé déjà souvent avec son amie de furtifs, de timides baisers, et qu'à peine sa mère passait dans l'autre chambre, elle venait de lui prendre la main et de lui dire, mettant tout son cœur dans ce gracieux reproche, « Et vous avez pu partir hier au soir sans me dire adieu ?»« Mais j'ai été bousculée par Claude !» fit René en rougissant. Et serrant les doigts de la jeune fille, qui ne fut la dupe ni de cette excuse, ni de cette fin de caresse, car elle se déroba à cette pression. Elle secoua la tête avec mélancolie, et comme ouvrant la bouche avec effort, « Non, dit-elle, vous n'êtes plus gentil comme autrefois. Depuis combien de temps ne m'avez-vous plus fait de verre ?»« Vous êtes donc comme les bourgeois, qui pensent que les verres s'écrivent à volonté ?» répliqua le jeune homme presque durement. Il éprouvait cette irritabilité qui est le signe le plus indiscutable d'un déclin d'amour. L'obligation sentimentale, la pire de toutes, lui apparaissait sous une de ses mille formes. Par un instinct qui les conduit, d'une part à regarder jusqu'au fond de leur malheur, de l'autre à poursuivre avec acharnement leur bonheur passé, les femmes qui se sentent moins aimées formulent ainsi de ces exigences toutes petites, toutes humbles, qui produisent sur le cœur de l'homme l'effet que produit sur la bouche trop sensible d'un cheval un maladroit coup de caveçon. L'amant qui était venu avec la ferme volonté d'être doux et tendre se cabre soudain. Rosalie avait déplu. Elle le sentait, comme elle avait senti la sécheresse de René tout à l'heure. Et une étrange détresse s'empara d'elle. Depuis le départ de son amie, la veille, elle était jalouse, avide, et sans vouloir admettre ce mauvais sentiment, mais jalouse tout de même. Qui rencontrera-t-il dans cette fête ? S'était-elle demandé avant et pendant, au lieu de dormir. Avec qui cause-t-il ? Et maintenant, ah, il m'est déjà infidèle, sans quoi il ne me parlerait pas sur ce ton. Le silence qui suivit la dure réponse lui fut si pénible qu'elle dit timidement, Est-ce que les acteurs ont bien joué hier ? Pourquoi fut-elle froissée de voir avec quel plaisir René s'emparait de cette question, afin d'empêcher que la causerie ne continuât dans un autre chemin que celui des banalités ? C'est que le cœur de la femme qui aime vraiment, et elle aimait, trouve des susceptibilités nouvelles au service des moindres impressions. Et toute navrée, elle écoutait René répondre. Ils ont joué divinement. Puis il s'engagea dans une dissertation sur la différence qu'il y a entre le jeu éloigné de la scène et le jeu tout rapproché d'un salon. Pauvre petite, se disait Madame O'Farrell en rentrant. Elle est si naïve. Elle n'a pas su le faire parler d'autre chose que de cette maudite pièce. Et à voix haute, afin de se venger sur quelqu'un de ce qu'elle n'entrevoyait pas l'instant où René se déclarerait, « Dites donc, » fit-elle, « est-ce que votre ami, Monsieur Larcher, n'est pas un peu jaloux de votre succès ?» Chapitre 6. La logique d'un observateur. René Vinci était entré chez les O'Farrell sous une impression pénible. Il en ressortit sous une impression plus pénible encore. Tout à l'heure, il était mécontent des choses. Maintenant, il était mécontent de lui-même. Il était venu chez Rosalie dans le but de lui procurer une douceur et de lui épargner le petit ennui d'apprendre son succès de la veille par une bouche autre que la sienne. Et cette visite avait causé une souffrance nouvelle à la jeune fille. Quoique le poète n'eût jamais eu pour cet enfant aux beaux yeux noirs qu'un amour d'imagination, cet amour avait été trop sincère pour qu'il n'en conservât point ses deux sentiments, les deux derniers à mourir dans l'agonie d'une passion. Un pouvoir extraordinaire de suivre les moindres mouvements de ce cœur de vierge et une pitié, inefficace autant que douloureuse, pour toutes les souffrances qu'il infligeait à ce cœur. Une fois de plus, il se posa cette question. N'est-il pas de mon devoir de lui dire que je ne l'aime plus ? Question insoluble, car elle ne comporte que deux réponses. La brutalité égoïste est cruelle, si l'on est simple. Et, si l'on est compliqué, la lâcheté d'Adolphe, avec son affreux mélange de compassion et de trahison. Le jeune homme secoua la tête pour chasser l'importune pensée. Il se dit l'éternel « Nous verrons plus tard », avec lequel tant de bourreaux de cette espèce ont prolongé tant d'agonie. Puis il se força de regarder autour de lui. Ses pas l'avaient porté, sans qu'il y prît garde, dans la portion du faubourg Saint-Germain, où, plus jeune, il aimait à se promener, quand, enivré par la lecture des romans de Balzac, cette Iliade dangereuse des plébéiens pauvres, il évoquait derrière les hautes fenêtres le profil d'une duchesse de Langeais ou de Maufrigneuse. Il se trouvait dans cette large et taciturne rue barbée de Jouy, qui semble en effet un cadre tout préparé à quelques grandes dames d'une aristocratie un peu artificielle, par l'absence totale de boutiques au rez-de-chaussée de ces maisons, par l'opulence de quelques-uns de ces hôtels et le caractère à demi-provincial de ces jardins entourés de murs. Une inévitable association d'idées ramena le souvenir de René vers l'hôtel Komoff, et presque aussitôt, la pensée de la seigneuriale demeure de la comtesse réveilla en lui, pour la quatrième fois de la journée, l'image de plus en plus nette de Madame Morène. Cette fois, son âme, fatiguée des émotions chagrinantes qu'elle venait de traverser, s'absorba tout entière dans cette image au lieu de la chasser. Songer à Madame Morène, c'était oublier Rosalie, et c'était surtout se détendre dans une sensation uniquement douce. Après quelques minutes de cette contemplation intime, le dévidement naturel de sa rêverie conduisit le jeune homme à se demander « Quand la reverrai-je ?» Il se rappela la voix et le sourire qu'elle avait eus pour prononcer ces mots « Les jours d'opéra avant le dîner ». Les jours d'opéra ? Cet apprenti élégant ne les connaissait même point. Il éprouva un plaisir enfantin et hors de proportion avec sa cause apparente, celui d'un homme qui agit dans le sens de ses plus inconscients désirs, a gagné précipitamment le boulevard des Invalides, où il chercha une affiche des spectacles du soir. On était au vendredi, et cette affiche annonçait les Huguenots. Le cœur du jeune homme se mit à battre plus vite, il avait oublié, et Rosalie et ses remords de tout à l'heure, et la question qu'il s'était posée. La voix intérieure, celle qui chuchote à l'intérieur de notre âme des conseils, dont, à la réflexion, nous demeurons nous-mêmes stupéfiés, venait de lui murmurer « Madame Morène sera chez elle aujourd'hui, si j'y allais. » « Si j'y allais, » se répéta-t-il tout haut, et la seule idée de cette visite lui infligea un serrement de gorge et comme un tremblement intérieur. C'est la facilité avec laquelle naissent et renaissent ces émotions extrêmes et à propos des moindres circonstances qui fait de la vie passionnelle des jeunes gens un si étrange va-et-vient de volonté tour à tour effrénée et misérable. Celui-ci n'eut pas plutôt formulé cette tentation dont il était assailli qu'il haussa les épaules et se dit « C'est insensé !» Puis, cet arrêt une fois porté, il se mit sous prétexte d'accumuler les objections, à plaider la cause de son propre désir. « Comment me recevrait-elle » Le souvenir des beaux yeux et du beau sourire lui faisait se répondre tout bas « Mais elle a été si aimable, si indulgente !» Il reprenait « Que lui dirais-je pour justifier cette visite ?» Moins de 24 heures après l'avoir quitté. « Bah !» répliquait la voix tentatrice. « L'occasion inspire. Mais je ne suis pas seulement habillée. » Il n'avait qu'à passer rue Coët-Logon. « Mais je ne sais pas même son adresse. Claude la sait. Je n'ai qu'à la lui demander. » Quand l'idée d'une visite à son ami lui eut traversé l'esprit, il sentit qu'en tout cas, il lui serait impossible de ne pas mettre du moins cette part de son projet à exécution. Aller chez Claude, c'était faire le premier pas du côté de Madame Morène. Mais au lieu de se l'avouer, René eut la petite hypocrisie de se donner d'autres raisons. Ne devait-il pas à son ami de prendre de ses nouvelles? Il l'avait quitté si malheureux la veille, si évidemment crispé. Peut-être pleurait-il comme un enfant. Peut-être se préparait-il à chercher querelle à Salvanet. Le poète justifiait ainsi la hâte avec laquelle il se dirigeait maintenant vers la rue de Varennes. Ce n'était pas seulement l'adresse de Suzanne qu'il espérait obtenir, c'était encore des renseignements sur elle. Et il s'ingéniait à se démontrer qu'il remplissait simplement un devoir d'amitié. Il aperçut le tournant de la rue de Bellechasse, puis la porte cochère de l'étrange maison où l'archer avait élu domicile. Elle était en travers, cette porte, et une fois poussée, on se trouvait dans une immense cour où tout trahissait l'abandon, depuis l'herbe grandie entre les pavés jusqu'aux toiles d'araignée dont s'encombrait le vitrage des écuries désertes, à gauche. Au fond de cette cour solitaire se dressait un vaste hôtel, construction du temps de Louis XIV, sur le fronton duquel on lisait encore la fière devise des Saintes Vertes, dont avait été la demeure familiale, Fortifer. Les pierres de cette bâtisse, rongées par les intempéries, ses hautes fenêtres fermées de volets, son silence, s'harmonisaient avec la solitude de la cour. Cet antique faubourg Saint-Germain renferme deux ces maisons, singulières comme la destinée de leur maître, et dont les artistes curieux du pittoresque psychologique, si l'on peut unir ces deux mots pour définir une presque indéfinissable nuance, raffoleront toujours. René connaissait, par son ami, l'histoire de l'hôtel, et comment le vieux marquis de Sainte-Verte s'était retiré avec ses petits-fils dans ses terres du Poitou depuis 6 ans, désespéré par la mort presque simultanée de ses 3 filles, de ses gendres et de sa femme. Une épidémie de fièvre typhoïde contractée dans une petite ville d'eau où toute la famille était réunie avait fait de ce vieillard heureux l'aïeul d'une tribu d'orphelins. Du vivant de la marquise, administratrice excellente de la fortune commune, deux petits appartements étaient loués dans l'hôtel à des personnes d'occupation tranquille. Ces deux appartements avaient aussi leur histoire. Le grand-père du marquis actuel les avait aménagés dans la vieille demeure pour deux cousins, chevaliers de Saint-Louis et anciens émigrés, qui avaient achevé là une existence errante et pauvre. Monsieur de Sainte-Verte avait laissé les choses dans l'état où sa femme les avait mises. Claude se trouvait ainsi installé dans une des ailes du morne et silencieux bâtiment, et il s'y trouvait installé seul. L'autre locataire avait donné congé par dégoût de la tristesse de cette vaste maison, et aucun nouvel amateur ne s'était présenté pour s'enterrer dans cet énorme tombeau, dressé entre une cour abandonnée et un jardin plus abandonné encore. Mais tout plaisait à l'écrivain, de ce qui précisément déplaisait aux autres. L'étrangeté du lieu ravissait en lui à la fois le faiseur de paradoxes et le rêveur. Le caractère extravagant de son existence d'artiste viveur et mondain, encadré dans cette solennelle solitude, lui plaisait, non moins que le calme dont il pouvait entourer ses agonies intimes. Le romantisme analytique dont il se savait atteint et qu'il développait complaisamment en lui, comme un médecin qui cultiverait sa maladie par amour d'un beau cas, se délectait dans cette retraite. Il avait en outre l'avantage d'y jouir d'une absolue indépendance. Le concierge, conquis par des billets de théâtre et fasciné par la réputation de son locataire, l'aurait laissé renouveler dans le vestibule de l'hôtel Sainte-Verte les saturnales de l'hôtel Pimodan, si l'envie avait pris l'archer de fonder à nouveau un club de hachichins ou de reproduire quelques scènes d'orgies littéraires par goût archaïque du genre 1830. Ce concierge était d'ailleurs absent de sa loge, comme cela lui arrivait la moitié de la journée, lorsque René voulut demander si son ami était là, en sorte que le jeune homme gagna tout droit le perron. Il entra dans le grand vestibule, dont la grande lanterne attestait la magnificence des réceptions d'autrefois. Il s'engagea sur un escalier de pierre qu'une grille en fer forgé accompagnait jusqu'en haut. Au second étage, il tourna dans un couloir, à l'extrémité duquel une double portière en étoffe orientale annonçait les curiosités d'une installation moderne. Au fond de cet hôtel, où les ombres des grands seigneurs à perruque semblaient devoir errer durant la nuit. Le domestique qui vint ouvrir au coup de sonnette offrait cette physionomie particulière à presque tous les gardiens des antiques bâtisses et qui traduit une des mille influences secrètes des endroits sur la personnalité humaine, car elle se retrouve également chez ceux qui montrent les châteaux en ruine ou les portions réservées des cathédrales. Ce sont des visages qui sentent l'humidité, croirait-on, des nuances de teint verdâtre, une sauvagerie d'oiseaux de nuit dans l'œil et dans la bouche. Ferdinand, c'était le nom du personnage, présentait cette différence avec ses confrères qu'il était vêtu avec une recherche toute contemporaine, portant comme il faisait la défroque de son maître. Il avait été valet de chambre au service du feu comte de Sainte-Verte et cumulait ses actuelles fonctions de domestique auprès de Claude avec celles de surveillant de l'hôtel, dont il ne sortait pas beaucoup plus d'une fois par mois. C'était le concierge qui se chargeait de toutes les courses de l'écrivain, et la femme de ce concierge cuisinait pour lui. Tout ce petit monde vivait sous la fascination de Claude, qui possédait, à un rare degré, le don de s'attacher les inférieurs, par une entente curieuse des caractères et aussi par son enfantine bonté. Quand Ferdinand aperçut le visiteur, il ne put retenir une expression de vive inquiétude. « On a laissé monter monsieur ? » dit-il. « Je vais être grondé. » « Claude travaille ? » demanda René en souriant de la naïve frayeur du bonhomme. Ferdinand se trouvait au dépourvu devant une visite à laquelle son maître n'avait évidemment pas songé. « Non !» répondit le domestique presque à voix basse. « Mais Madame Colette est là. « Demandez-lui s'il veut me recevoir une minute. » fit le poète, curieux de savoir quelle attitude les deux amants observaient vis-à-vis l'un de l'autre après la scène de la veille. Et il ajouta « Je prends tout sur moi !» pour achever de vaincre l'hésitation du valet de chambre. « Monsieur peut monter !» revint dire ce dernier, et il précéda le jeune homme à travers l'antichambre, puis le long du petit escalier intérieur qui conduisait aux trois pièces où Claude se tenait d'ordinaire et qu'il appelait, suivant le cas, son pensoir ou son souffroir. L'aspect de cet escalier et des deux premières de ces trois pièces étonnait par l'abus des étoffes et des tapis. Un jour artificiel, tamisé par des carreaux de couleur, éclairait à peine, durant cet après-midi de février, les chaises de maroquin du fumoir et le vaste salon dont les murs disparaissaient sous les livres. Le séjour favori de l'écrivain était un réduit, au fond, tendu d'une étoffe sombre, sur laquelle se détachaient des toiles et des aquarelles des peintres les plus modernes de cette époque, ceux que préférait la fantaisie volontiers outrancière du maître du logis. C'était deux loges de théâtre par forain, une danseuse de Degas, une banlieue de Raffaelli, une marine de Monet, quatre eaux-fortes de Félicien Rops et, sur un socle drapé, un buste de Claude Larcher, lui-même, par Rodin, buste d'une intelligence extraordinaire, où le grand sculpteur avait reproduit merveilleusement la psychologie entière de son modèle. L'inquiétude morale et le libertinage, la réflexion hardie et la volonté faible, un idéalisme natif et une corruption presque systématiquement acquise. Une bibliothèque basse, un bureau dans un coin, trois fauteuils dans le style vénitien avec des nègres pour supporter leurs bras et un large divan de cuir vert achevaient l'ameublement de cet asile que remplissait en ce moment la fumée de la cigarette russe de Colette. La jeune femme était couchée sur le divan, ses cheveux blonds à demi décoiffés, dans un costume légèrement masculin, avec un col droit et un veston ouvert. Sous la jupe en étoffe anglaise s'apercevaient ses fines chevilles, avec ses pieds un peu longs, chaussés de bas de soie noire et de souliers vernis. Une pâleur était sur sa joue creusée, cette pâleur nacrée que l'abus du maquillage, les longues veillées, les fatigues d'une vie exorbitante donnent à beaucoup de femmes de théâtre. Claude était à ses pieds, sur ce même divan, tout pâle lui-même, et son visage altéré, comme le désordre des coussins, comme la tenue de Colette, indiquait assez qu'il avait dû y avoir entre les deux amants une de ces scènes de réconciliation animale, ou sombre, avec toute la rancune de l'homme, toute sa dignité. « Ah, mon petit Vinci !» dit Colette en tendant la main au visiteur. « Vous arrivez juste à temps pour m'empêcher d'être battue. Si vous saviez comme Claude est mauvais pour moi !»« Allons, Claudine !» ajouta-t-elle en menaçant du doigt son amant. « Dites le contraire si vous l'osez, si tu l'oses, m'amour !» Et par un de ces gestes gracieux où se révélait toute la souplesse de son buste, elle racontait elle-même qu'elle ne portait presque jamais de corset. La charmante fille se releva, posa sa tête blonde sur l'épaule de Claude et lui mit aux lèvres la cigarette qu'elle était en train de fumer. Le malheureux homme regarda son jeune ami avec une supplication et une honte dans les yeux, puis il tourna ses regards vers Colette, et des larmes tombèrent au bord de ses cils. Cette dernière se fit plus coquette encore. Elle appuya tout à fait sa gorge contre son amant, et elle épia dans ses prunelles ce passage de désir qu'elle savait si bien exploiter après l'avoir provoqué. Il y eut un silence. Le feu crépita doucement, et un rayon de soleil, perçant les vitraux, fit trembler une barre rouge sur le visage de l'actrice. René avait trop souvent assisté à des scènes de ce genre pour s'étonner de l'impudeur de son ami et de sa maîtresse. Il connaissait par expérience l'étrange cynisme de leurs mœurs, mais il se rappelait aussi la sortie terrible de Claude la veille et les cruautés de langage de Colette. Ce lui était une stupeur de constater une fois de plus les faiblesses avilissantes de l'écrivain et les inconséquences de cette fille, qui, en ce moment, rougissait d'invisibles désirs. Il éprouvait en outre, dans l'atmosphère chaude de cette pièce où flottait le parfum employé par l'actrice, et devant ce groupe à demi impudique, une impression de sensualité qui lui était trop familière. Bien souvent déjà, les allées et venues de cette femme dépravée, mais d'une dépravation de grande courtisane, lui avaient donné la notion d'un amour physique très différent de celui qu'il avait connu. Dans sa loge, surtout, lorsqu'elle était devant sa glace, en train de faire son visage avec la pâte de lièvre frottée de rouge, ses épaules nues et ses seins libres dans la chemisette de transparente batiste aux épaules ajourées, ou qu'elle glissait devant lui ses jambes fines dans des bas de soie rose, elle lui était apparue comme une créature tentatrice, capable de donner des baisers d'une saveur unique. Et René enviait Claude alors, autant qu'il le plaignait. Puis ces passages cédaient la place au dégoût d'une part qu'inspirait au poète la bassesse morale de l'actrice et d'autre part au fervent scrupule d'amitié que professent et pratiquent les âmes jeunes. Cela eût fait horreur à René de désirer même une minute la maîtresse de son protecteur. Peut-être l'intuition de cette délicatesse n'était-elle pas étrangère aux attitudes de Colette. Elle s'amusait, par simple jeu de perversité, à lui promener sa beauté devant les sens, comme une fleur dont il faut bien que les narines respirent le parfum, même quand les mains ne s'étendront pas pour la saisir. Il en fut de la grâce avec laquelle la curieuse enlaça Claude, comme des autres caresses qu'elle lui avait prodiguées devant René. Ce dernier ne put empêcher qu'il ne tressaillît en lui quelque chose d'obscurément physique, comme un appétit inconscient de baisers semblables. Et par une de ces associations de désirs, plus troublantes que les associations d'idées, parce que nous n'en apercevons pas la marche secrète, l'image de Madame Morène ressuscita en lui, parée de toute la séduction qu'elle avait secouée autour d'elle, la veille, dans le parfum de sa toilette. Il sentit cette fois deux choses. L'une, qu'il lui serait impossible de ne pas aller chez cette femme aujourd'hui même. La seconde, qu'il n'aurait jamais la force de prononcer son nom et de demander son adresse devant l'actrice aux yeux lascifs, qui maintenant embrassait Claude à pleines lèvres. « Va-t'en, » disait ce dernier en la repoussant. « Je t'aime et tu le sais. Pourquoi me fais-tu souffrir? Demande à René dans quel état il m'a vue hier. Dites-le-lui, Vinci, et qu'elle ne devrait pas jouer avec mon cœur. Bah !» continua-t-il en se passant la main sur les yeux. « Qu'importe, tu sortirais d'une maison publique et tu m'arriverais sali par la luxure d'un régiment que je me mettrais à tes genoux et que je t'adorerais. » Et voilà les madrigaux qu'ils trouvent toute la journée, s'écria Colette en riant comme une enfant et se renversant sur les coussins. Eh bien, René, parlez-lui aussi de moi. Dites-lui dans quelle colère j'étais contre lui hier au soir, parce qu'il était parti sans me dire adieu. Et il ne m'a pas écrit, et je suis revenue. Oui, c'est moi qui suis revenue la première. Ah, si je ne t'aimais pas, est-ce que je ne te laisserais pas t'en aller, espèce de sauvage ? Et elle prit l'écrivain par les cheveux. Les coins de sa bouche se rabaissèrent, ses dents se serrèrent, son visage exprima ce qu'elle éprouvait réellement pour Claude, une sensualité cruelle. Cette sensualité qui pousse une femme à martyriser l'homme dont elle ne peut pas fuir les caresses. Il y a eu dans l'histoire des reines qui ont aimé ainsi et fait couper la tête aux amants qui exerçaient sur elles ce pouvoir étrange de parler à la fois à leurs désirs et à leur haine. René répondit doucement. « C'est vrai que j'étais inquiet de lui hier au soir et que vous avez été bien dur. » La belle histoire, fit Colette en riant de son plus mauvais rire. Je vous ai déjà dit que vous le gobiez. Moi, j'en suis revenue depuis le jour où il m'a menacé de se tuer. Et je suis arrivée ici comme j'étais, en robe de théâtre, sans même ôter mon rouge. Et je l'ai trouvé qui corrigeait des épreuves.
Mais c'est le métier, répliqua Claude.
Tu joues bien un rôle gai avec un chagrin dans le cœur.
Mais qu'est-ce que cela prouve ?
Dit-elle aigrement.
Que nous sommes deux cabotins. Seulement je t'accepte comme tu es, et toi non.
Tandis qu'elle continuait, taquinant Claude avec cette espèce de lucidité féroce qu'une maîtresse rancunière possède à son service contre l'homme avec qui elle a dormi cœur à cœur, René avait avisé sur le bureau de son ami un de ses annuaires de la société, qui, sous le titre de « High Life », contiennent l'adresse de toutes les personnes attachées de près ou de loin à la vie élégante. Il l'avait pris et le feuilletait en disant, avec l'embarras de son petit mensonge dans le regard et dans la voix,
« Tiens, votre nom n'est pas là, Claude. »
« Par exemple, fit Colette, je le lui défends bien. Il ne fréquente que trop tous ces gens de cercle. »
« Je croyais que vous aimiez assez la conversation de ces messieurs, » dit Claude.
« Fine allusion, » répliqua-t-elle en haussant ses jolies épaules. « Mais c'est leur affaire à eux d'être chic. Ils savent s'habiller, jouer au tennis, monter à cheval et parler sport. Et toi, tu ne seras jamais qu'un gommeux avec une tête de savant. Ah, si je pouvais te revoir comme il y a 8 ans, lorsque je sortais du conservatoire et que tu m'as été présenté. C'était dans un restaurant au coin de la rue des Saints-Pères. J'étais venu déjeuner avec ma mère et Farguet, mon professeur. Tu étais si gentil dans ton coin, avec ton air de sortir d'une cellule et d'ouvrir tes grands yeux sur la vie. Tiens, quand nous nous sommes mis ensemble, ça a été à cause de cela. Vous verra-t-on au théâtre ce soir ? Ajouta-t-elle, comme René se levait, reposant le livre. Il venait d'y trouver ce qu'il cherchait, l'adresse de Madame Morène, laquelle demeurait rue Murillo, près du parc Monceau. « Non ? Demain, alors ? Et surtout, tâchez de ne pas devenir comme lui un coureur de soirée. Avec cela qu'elles sont propres, les femmes du monde. Il y en avait 3 qui me faisaient les yeux doux hier au soir. Tenez, voyez sa figure. » Vous ne serez pas plutôt parti qu'il se fâchera. Tu ne vas pas te mettre à être jaloux aussi des femmes, ajouta-t-elle en allumant une nouvelle cigarette. Adieu, René.
Elle est comme cela devant vous, disait Claude en reconduisant son ami quelques minutes plus tard jusque dans l'antichambre d'en bas. Mais si vous saviez comme elle peut se montrer gentille, bonne et tendre quand nous sommes seuls.
« Et Salvané ?» interrogea étourdiment le jeune homme. « Eh bien, » dit Claude en pâlissant, « elle était allée chez lui voir des gravures pour son prochain rôle. Elle m'a juré qu'il ne s'était rien passé entre eux. Avec les femmes, tout est possible, même le bien » ajouta-t-il en serrant les doigts de René d'une main qui tremblait un peu. « Que voulez-vous ? Je la croirai toujours quand elle me parlera avec une certaine voix. »